Cette semaine, nous avons fêté l'Ascension.
Oui.
Il y en a qui ont fêté l'Ascension. Qu'avez-vous fait jeudi ? Ah, il y en a qui ont travaillé. J'espère que certains ont pu prendre un temps de repos, un temps de loisir, un moment de détente. C'est nécessaire hein, dans nos vies bien agitées. Bon, voilà ce qu'ont fait nos jeunes. Chouette, hein ? Ils ont renforcé le lien, leur lien. Ils sont allés dans un parc de loisirs et c'est bien passé aussi ces temps ensemble, ces temps amicaux, pour vivre des choses en commun. Bon, du côté de la famille pastorale, de ce qui en restait, ben on a fait la même chose en fait. Un temps de loisir, un temps de détente. L'Ascension. Ce jour en pleine semaine qui a bien souvent du mal à trouver sa place dans notre vie avec Dieu. Oui, on a un culte spécial généralement pour le dimanche de Pâques. Pour Noël, pas besoin de faire de grands efforts pour mobiliser l'Église. On a tous envie de faire quelque chose pour témoigner de notre espérance. À la Pentecôte, les églises de région parisienne s'essaient même à un culte en commun. Il aura lieu dans 10 jours à Hautefeuille, enfin moins de 10 jours maintenant. Mais l'Ascension, ce jour en pleine semaine, au beau milieu, l'Ascension, le parent pauvre de nos fêtes chrétiennes. Et pour ne rien vous cacher, cette année a bien failli être à nouveau un parent pauvre pour la prédication sur l'Ascension. Jusqu'à ce que je me rende compte en tapant dans mon ordinateur avec un petit mot-clé « Ascension » pour voir le nombre de prédications qui ressortaient, pour constater qu'il y en avait 0. Waouh ! Je me suis dit « Oulala !» Mais le problème, on est dans une série dans le livre des Actes qui nous parle de la mission de l'Église, qui nous permet d'approfondir notre mission en tant qu'Église, aussi bien dans notre réalité locale que dans notre vision de la mission au loin. Est-ce que nous allons trouver un texte dans ce livre qui nous parle de l'Ascension ? Nous en sommes au chapitre 20 du livre des Actes. La dernière fois, Gordon nous a parlé de ces 12 étranges disciples d'Éphèse. C'était le début du chapitre 19 et on laisse de côté la fin du chapitre 19 qui est pour les groupes de maison. Et alors que je m'apprêtais à sauter le début du chapitre 20, parce qu'il ressemble à un beau carnet de voyage de l'apôtre Paul, soudain, Dieu a attiré mon attention sur ce passage, et j'ai commencé à y voir des liens avec l'Ascension. Peut-être qu'il n'y a que moi qui les verrai, vous me direz à la fin. Mais ce matin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons voir que l'Ascension du Christ donne l'élan missionnaire à l'Église. L'Ascension, c'est ce qui donne l'élan missionnaire à l'Église. Et c'est ce que nous allons méditer à travers ces versets. Et je vous invite à prendre vos Bibles au chapitre 20, les versets 1 à 12. Le texte va vous être projeté, si vous voulez le suivre, à l'écran. Lorsque le tumulte eut cessé, on parle là des événements qui ont eu lieu à Éphèse, là où était l'apôtre Paul, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il décida de reprendre sa route vers la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui s'était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Jusque-là, la parole de Dieu ce matin. Ces versets semblent donc de prime abord nous présenter le journal ordinaire d'un chrétien en mission, en l'occurrence l'apôtre Paul. Après 3 années passées à Éphèse, il continue son itinérance et repasse par les églises qu'il a fondées pendant le 2e voyage missionnaire, comme à son habitude pour encourager les disciples. Il est question des églises de Macédoine, probablement Philippe, Thessalonique, Béret, qu'il a donc fondé pendant le 2e voyage missionnaire. Il est question aussi de passer 3 mois en Grèce, alors probablement à Corinthe. Est-il passé à Athènes? On n'en entend pas parler dans la suite du livre des Actes. Et ensuite, donc, dans notre passage, il repasse par Philippe, où il fête la fête des pains sans levain, et arrive donc à Troas. Un passage extraordinaire, parce qu'au-delà des allées et venues de Paul, il élargit notre vision de ce qu'a été cette formidable aventure que la propagation de l'Évangile dans le bassin méditerranéen. On a bien sûr en tête le rôle central de l'apôtre Paul, et il est central, mais force est de constater que ce ne fut pas une œuvre solitaire. Sopater, Aristarque, Seconde, Gaius, Timothée, Tychique, Trophime, des prénoms pas très à la mode aujourd'hui, mais qui, semble-t-il, ont joué un rôle central dans cette propagation de l'Évangile. Plus encore qu'un travail en équipe, un réseau d'églises à l'œuvre. Vous avez entendu? On a cité à chaque fois les églises d'où ils venaient. Derbe, Thessalonique, Béret. Ça ne nous est pas dit, mais il y a aussi l'église d'où vient Timothée, Iconium. Il est question aussi des églises de province d'Asie, probablement Éphèse, d'où est parti Paul, Colosse, Laodicée, là où n'est pas forcément allé Paul, mais qui ont été évangélisés à partir d'Éphèse lorsque Paul y était. Ces quelques versets qui nous paraissent donc anecdotiques traduisent en fait ce formidable élan missionnaire qui a traversé les églises naissantes. Elles ont participé, elles ont été mises à contribution, elles ont dû apprendre à ne pas voir leurs ressources humaines et financières souvent limitées comme un frein à ce formidable élan missionnaire, loin de leur réalité locale. Et c'est ce projet dans lequel nous essayons de grandir cette année, dans notre église à Farmoutier. On est, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, en train de réfléchir à un voyage missionnaire court terme. Et nous savons, comme pour les voyages missionnaires long terme, tous ne partiront pas dans ce voyage missionnaire court terme. Et ça n'est même pas souhaitable, c'est pas le but. Et puis ce serait même pas possible pour là où on va aller de nous accueillir si nous y allions tous. Si vous souhaitez encore partir, rassurez-vous, c'est encore possible. On a une rencontre le 25 mai pour parler de tout ça. Mais que vous vous y réfléchissiez, que vous réfléchissiez à partir ou pas, il n'en reste pas moins important que nous nous posions la question, chacun, de notre place dans ce projet, comme les églises de Béret, de Derbe, de Lystre, d'Iconium. Tout simplement peut-être en y apportant un intérêt, tout simplement en s'engageant à prier pour cela, tout simplement en réfléchissant avec ceux qui vont organiser comment organiser ça depuis ici. Il y aura beaucoup de choses à réfléchir au niveau logistique, au niveau des initiatives, et plusieurs choses seront proposées dans les prochaines semaines où l'idée, ce n'est pas juste l'équipe qui part qui doit s'en saisir. Ne vous privez pas d'une manière ou d'une autre de trouver votre place dans ce projet. Cela fait partie de l'élan missionnaire qui doit nous traverser. Si nous voulons que notre Église ne soit pas uniquement une Église tournée vers elle-même, vers ses propres défis, mais qu'elle soit une Église profondément préoccupée par le progrès de l'Évangile. Voilà donc comment le journal ordinaire d'un chrétien en mission, que semble être Acte 20, nous amène à nous intéresser à Troas. Une église ordinaire traversée par la mission de Dieu. Troas, dans le livre des Actes, c'est un peu la ville de passage. La ville courandaire. On ne nous dit pas comment cette église est née. Il n'y a pas de lettre adressée aux chrétiens de Troas. Ce qui rend Troas célèbre dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le fait que l'apôtre Paul y soit arrivé, c'est le fait qu'il en soit parti. C'est là qu'il a eu sa vision avec le Macédonien qui lui est apparu pour passer en Europe ce moment décisif dans la mission du 1er siècle. Mais bon, finalement, il va quand même se passer quelque chose à Troas, et c'est notre passage qui en parle, puisque l'équipe missionnaire a précédé Paul là-bas. Et une chose qui tout d'un coup a commencé à attirer mon attention en lisant ce passage, ce sont les dates. Les dates. Quand est-ce que Paul est à Troas avec son équipe? Entre la fête des pains sans levain, c'est ce qu'il nous est dit qu'il a fêté à Philippe, et j'ai pas lu le passage, mais un peu plus tard, au verset 16, il nous est dit qu'il se dépêchait d'aller à Jérusalem pour la Pentecôte. Fête des pains sans levain, Pâques, la Pentecôte, la semaine prochaine, entre les deux Troas, entre les deux l'Ascension. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient à l'Ascension à Troas, hein, ça collerait pas avec le calendrier de ce qu'on peut lire. Non, si je souligne ça, c'est parce que quelque chose m'a intrigué à nouveau dans ces versets. En fait, il y a peut-être une raison biblique que l'Ascension soit le parent pauvre des fêtes chrétiennes. Parce que cette fête n'est mentionnée nulle part dans le Nouveau Testament. Il est question de Pâques, il est question de la Pentecôte, mais il n'est pas question de l'Ascension. Pourquoi cela ? Parce que les Juifs ne fêtaient pas l'Ascension. C'est intéressant. Si Paul fête Pâques, ce n'est pas la fête de Pâques qu'il fête, c'est la fête des pains sans levain. Les sept jours qui suivaient Pâques, c'est la fête juive qu'il a voulu fêter avec les chrétiens de Philippe. Et si Paul se dépêche d'aller à la Pentecôte à Jérusalem, pas sûr que ce soit pour se rappeler avec les autres apôtres de ce jour où le Saint-Esprit est descendu. Non, non, il semble qu'il veut y être parce qu'il y aura plein de Juifs présent à Jérusalem pour cette fête des moissons, cette fête de l'abondance, cette fête de la joie, de la reconnaissance du peuple juif, et il a envie de défendre son évangile devant les juifs. C'est ce qui va d'ailleurs causer son arrestation. Les chrétiens, semble-t-il donc, n'ont pas tout d'un coup changé de calendrier en disant « on met de côté le calendrier juif et maintenant on va fêter nos fêtes chrétiennes ». Ils ont continué de s'appuyer pendant un certain temps sur les fêtes juives, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné une connotation, une vision chrétienne à ces fêtes juives. Hein. Mais l'Ascension, du coup, eh bien, c'est un peu l'intrus au milieu de tout ça. Parce qu'il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui nous prépare réellement, en tout cas en tant que fête, à l'Ascension. Et c'est aussi cela qui lui donne une portée unique, et on va y revenir dans quelques instants. Mais pour l'heure, soulignons que fêter l'Ascension n'a probablement pas été un réflexe parmi les premiers chrétiens. Et les historiens nous apprennent d'ailleurs que c'est seulement vers le 4e siècle après Jésus-Christ que cette fête a commencé à trouver sa place dans les calendriers liturgiques. Bon, vous allez me dire, parler d'une fête qu'on ne fête pas dans un lieu dans lequel on ne fait que passer, c'est pas terrible quand même pour parler de l'Ascension. Mais là, il y a une autre chose qui m'a intrigué dans ce passage. C'est cette fameuse histoire de Titus. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. L'Ascension, une fête sans équivalent, c'était la partie d'avant. Et maintenant, c'est l'étonnant passage de Titus qui me pose question à chaque fois que je lis. Mais pourquoi, Luc, nous racontes-tu cette histoire? Une réunion d'église qui n'en finit pas. Un jeune homme qui s'endort sur le bord de la fenêtre et qui tombe du 3e étage et qui se relève indemne. Luc, pourquoi tu nous racontes cette scène tragicomique? Peut-être pour rassurer ceux qui auraient tendance à s'endormir pendant les prédications du pasteur? Vous n'êtes pas les premiers? Peut-être pour les pasteurs présents dans la salle qui ont tendance à endormir leur auditoire? Paul est passé par là avant nous. Ouf! Mais Luc, pourquoi un tel récit? C'est pas avec ça que tu vas redorer la réputation de Troas. Et puis pourquoi tous ces détails? L'homme qui chute, qui descend du troisième, Paul qui descend du troisième étage, qui se penche sur l'homme, qui le prend dans ses bras. Et puis on ne nous dit même pas si c'est un miracle. Non, non, il est en vie. Et Paul qui remonte au troisième étage et qui rompt le pain et qui mange et qui continue comme si de rien n'était à parler jusqu'au matin en espérant que plus personne ne se soit endormi. Vraiment, ce récit m'intrigue. Alors, ce récit nous donne plein d'informations sur la vie ordinaire de l'Église du 1er siècle de notre ère. L'Église se réunit le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ah, pas le samedi. Ça, pour le coup, ça a changé assez vite. Et c'est intéressant qu'on puisse le voir dans la vie ordinaire de l'église de Troas. Une église motivée à ce point pour écouter la parole de Dieu jusqu'au matin. Ah, ça aussi, ça peut peut-être nous faire réfléchir, et j'y reviendrai dans les applications tout à l'heure. Mais finalement, le fait de lire ce texte en période de l'Ascension m'a donné une nouvelle piste. Je vous livre une hypothèse, elle n'engage que moi, je crois n'avoir jamais lu ça dans un commentaire. Vous pouvez l'oublier aussi vite que vous l'avez entendu si vous le souhaitez. Mais Luc est connu pour utiliser des parallélismes dans sa manière d'écrire. Il y en a plein. C'est ainsi, par exemple, que dans le livre des Actes, il met en parallèle les deux apôtres principaux, Pierre et Paul. Il les met en parallèle entre eux, mais il les met aussi en parallèle avec le Seigneur. Si vous avez en tête le récit du moment où Pierre sort de prison, ce miracle-là, un peu étonnant. En fait, tout ce récit nous est écrit comme nous faisant penser à la résurrection du Christ. Quand Paul se fait arrêter à Jérusalem et se fait accuser injustement par les Juifs, tout est écrit pour nous faire penser à l'arrestation de Jésus-Christ et aux accusations injustes qui ont été portées contre lui. Et on pourrait relever comme ça tout un tas de parallèles dans la manière d'écrire de Luc. C'est sa patte littéraire, si vous voulez. Hein, c'est son style. C'est le style de Luc. Et ce style, c'est intéressant de le constater, mais en termes de parole de Dieu, le but c'est de savoir pourquoi il fait ça. Et il semble que le but de Luc, c'est d'étayer sa thèse. Les actes des apôtres sont en fait le prolongement des actes de Jésus. L'évangile de Luc, le livre des actes de Luc. Et l'idée pour Luc, c'est de montrer la convergence entre la mission accomplie par Jésus et la mission accomplie par les premiers chrétiens, et en particulier les apôtres. Et donc, en prenant en compte cela, je me demande si Luc n'a pas choisi de nous raconter cette histoire pour mettre en parallèle, justement, l'événement de l'Ascension. Un Paul qui est au troisième étage d'une maison, on s'en fiche, mais qui descend, qui prend un homme dans ses bras, un homme qui a chuté, et qui remonte pour continuer la mission. Comme je vous ai dit, c'est un parallèle qui n'engage que moi, ça vous convaincra peut-être pas, c'est pas le but. Pour moi, ça explique la raison de ces détails minutieux que Luc s'est amusé à nous donner, alors qu'il ne les donne pas dans d'autres passages où il y a des miracles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Luc veut montrer que malgré tous les obstacles, on a encore entendu ce matin, rencontrés par les missionnaires du 1er siècle, les premiers chrétiens confrontés à cette annonce de l'Évangile, où on aurait pu penser que tout allait aller comme sur des roulettes, c'est le roi des rois qui les envoie. Non, il y a des obstacles. Mais ils le faisaient bien au nom du roi des rois, de celui qui a tout entre ses mains, qui prend soin des moindres détails, comme de ne pas gâcher une réunion d'église par un fait divers tragique. Et c'est Paul qui a été l'instrument de Dieu pour vivre cela ce jour-là. Voilà qui devait pousser les chrétiens à ne pas s'endormir sur leur laurier et à chercher comment répondre à l'appel de Dieu. Et d'une manière générale, on peut dire que Luc, dans son livre des Actes, veut nous montrer en quoi l'Ascension, c'est le moteur pour l'élan missionnaire des premières églises. Le livre des Actes commence par l'événement de l'Ascension. Ah, Luc, il l'avait déjà dit à la fin de son évangile. Et pourtant, il recommence par l'événement de l'Ascension. Et il finit par quoi? Par la fin de la mission, entre guillemets. Paul est arrivé à Rome. Rappelez-vous d'Étienne. Étienne persécuté, martyrisé. et qui, au moment d'expirer, qu'est-ce qu'il a comme vision ? Jésus, à la droite de Dieu. Et qui est témoin est probablement celui qui a rapporté cette vision ? Paul, qui ramasse les vêtements d'Étienne et qui, quelques années plus tard, ou quelques mois sans doute, sera appelé, lui, à poursuivre la mission qui se fait quelque part éclaircie aussi à travers le martyre d'Étienne. L'ascension est l'élan, le moteur de l'élan missionnaire de l'Église. Pour reprendre ces paroles de Jésus, le fait que Jésus soit remonté auprès du Père a été un grand avantage pour la mission confiée aux apôtres. Alors peut-être il est nécessaire de s'arrêter juste quelques instants pour dire en quoi, justement, l'ascension a quelque chose de spécifique dans notre foi qui provoque cet élan pour la mission de l'Église. Qu'est-ce qu'affirme l'ascension de Jésus ? Eh bien déjà que c'est par un homme que Dieu est descendu régler le problème de l'humanité. Cet homme est venu vivre la vie qu'aucun autre homme n'a réussi à vivre en remplissant parfaitement les exigences de Dieu. Et ce même homme a été couronné pour désormais régner sur nous, maintenant qu'il est à la droite de Dieu. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand nous prions, nous nous adressons aussi à un homme. C'est cet homme qui intercède auprès du Père. Nous sommes sur terre, mais notre roi est au ciel. Et il a tout pouvoir sur le monde entier. Il nous demande de ne pas nous arrêter à ce que nous voyons, mais de nous attacher à ce que nous croyons. Il nous envoie pour que nous annoncions son règne au milieu des difficultés. Et il nous accompagne dans cette tâche en nous équipant de son esprit. Enfin, il nous prépare une place auprès du Père afin que nous ne courions plus après les vaines promesses de cette terre, mais que nous nous attachions aux réalités célestes dans lesquelles il est déjà assis. Voilà comment l'ascension du Christ donne un nouvel élan à notre existence. Et c'est ce nouvel élan d'ailleurs qui traverse le livre des Actes, en particulier dans ce chapitre 20, où l'ordinaire de l'Église devient une occasion extraordinaire d'expérimenter les nouvelles prérogatives du règne du roi des rois. Ce passage nous rappelle que notre... Décidément en retard sur les diapos, ce passage nous rappelle que notre mission auprès des autres s'inscrit dans le prolongement de celle que Dieu a accomplie pour nous. Et ça, c'est la mission, c'est l'ascension, pardon, qui le produit. Alors, que retenir de ce passage ? Comment nous fait-il réfléchir sur notre propre élan missionnaire ? Comment l'élan missionnaire s'est-il traduit à Troyes ? Pas évident, à première vue. Par une église rassemblée toute la nuit, désireuse d'entendre encore et encore la parole de Dieu annoncée par l'apôtre Paul. Étonnant. Pas très à la mode. Pas sûr que ce soit d'ailleurs cela qu'il faille imiter dans notre contexte d'église aujourd'hui. D'ailleurs, soyons clairs, multiplier les réunions d'église, allonger les rencontres jusqu'à point d'heure, n'a jamais été une garantie de spiritualité. Ce n'est pas ça, j'ai envie de dire, le point de ce texte. Et ça peut même produire l'effet inverse de ce sur quoi nous méditons. À force d'être toujours ensemble, toujours centré sur notre réflexion, notre foi, on peut devenir communautariste et totalement hermétique, totalement comme une muraille, j'ai envie de dire, qui nous sépare du monde dans lequel nous sommes placés. Le but n'est donc pas de copier l'église de Troas dans sa manière de faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce risque-là que nous courons à l'église de Pharmoutier. Alors les visiteurs, vous pourrez appliquer cela à votre propre contexte. Là, c'est un point sur lequel j'aimerais insister dans notre contexte local. Si vous regardez le programme de l'église de Farmoutier, vous remarquerez que nous avons assez peu de rencontres en semaine. Une rencontre de prière par mois, qui réunit, allez, en moyenne, une dizaine de personnes sur 70 membres. Bon, je pense que dans les visiteurs, ils pourraient dire que c'est pareil chez nous. Hein. Je ne suis pas là à nous dire, je veux qu'on réfléchisse. Un groupe de maison par mois. Ah, là, on est content, là. Quasiment tout le monde qui est dans un groupe de maison, mais on sait que ce n'est pas toujours simple hein, de mettre ça en bonne place dans le planning. Il y a toujours d'autres choses qui viennent aussi faire concurrence. Un certain nombre de groupes de croissance qui concernent peut-être une quinzaine de personnes dans l'église. Et on assume de limiter ces rencontres en semaine. Si le programme d'une église est trop chargé, il ne reste plus de temps pour les chrétiens pour vivre avec les autres, pour être ce témoignage que nous voulons être. Et c'est formidable que dans notre église, on ait cette aspiration aussi à être avec les autres. Mais aucun programme d'église ne garantit l'équilibre de notre foi. Et à Coulfarmoutier, je crois, en tout cas j'ai ce sentiment, vous pourrez peut-être me contredire après, que nous courons un autre risque actuellement. Celui d'être une église dispersée. Au sens négatif du terme, hein, l'église dispersée, c'est positif dans l'idée d'être envoyé par l'église pour justement être ambassadeur. Mais négatif si finalement il n'y a plus ce socle qui nous unit pour nous envoyer. Et il me semble qu'actuellement, nous courons ce risque. Si nous voulons porter l'évangile dans nos lieux de vie, nous devons aussi avoir des lieux pour partager cela, pour prier pour cela, pour nous encourager à cela, pour être ambassadeur du roi, des rois qui est auprès du Père. Le but, ce n'est donc pas de copier l'église de Troyes dans sa manière de faire, mais de nous interroger sur notre soif, notre attachement communautaire, notre soif d'être comme cette église. Vous savez, c'est quoi le problème d'une église qui ne propose pas beaucoup de rencontres, comme c'est le cas dans la nôtre ? C'est que si on en rate une, il faut attendre un mois pour la vivre à nouveau. Et vous savez, c'est quoi le problème quand on commence à rater une rencontre ? C'est finalement de se dire, mais on n'a pas tant besoin que ça. On arrive très bien à vivre sans. Ça ne vous rappelle pas un peu ce qu'on a vécu pendant le confinement ? Ah oui, c'est bien en fait l'église à la maison, en pyjama. C'est pour cela que la discipline et la priorisation jouent un rôle important. Et je vais prendre la question à l'envers. Est-ce que consciemment, je décide de ne pas participer à une rencontre d'église ? Et je le dis en toute honnêteté, c'est possible. Il peut y avoir des bonnes raisons pour ça. Mais est-ce que je me pose la question de le faire consciemment en disant « Dieu m'appelle à être ailleurs ». Et encore une fois, pour des questions de travail, des questions de famille, pour d'autres questions, il y a tout un tas de bonnes raisons de faire cela. Mais l'idée, c'est d'en faire un choix conscient. Alors j'espère que vous comprenez hein, ce que je veux transmettre. Ce n'est pas de dire il faut participer aux réunions d'église parce qu'il le faut, parce qu'un chrétien fait cela, parce qu'il faut faire plaisir au pasteur. Mais de le faire parce que nous prenons conscience que nous en avons besoin pour la mission que Dieu nous a confiée. Est-ce que j'ai bien des lieux dans l'église, et là vous pouvez l'élargir à votre propre église, est-ce que j'ai des lieux dans l'église où je prie régulièrement, où je m'encourage régulièrement avec d'autres pour ne pas perdre le fil de cet élan missionnaire que nous appelle à vivre le livre des actes? Parce que si je ne vis pas cela dans mon église locale, en fait, j'empêche mon église locale d'être vraiment l'église voulue par Dieu. Alors, on n'a pas le monopole des bonnes idées. Peut-être que ce qu'on propose n'est pas la bonne proposition et je vous encourage à ce qu'on en discute, à ce que vous puissiez venir voir un ancien membre du conseil pour qu'on sache peut-être qu'est-ce qui aujourd'hui est problématique dans notre programme d'église. Allez, concluons. L'exhortation de ce matin, c'est de ne pas perdre de vue ce qui est à l'origine de cet élan missionnaire. On a insisté sur l'ascension comme point de départ, et par rapport à la réalité d'église, on peut dire que c'est le fait de nous rassembler joyeusement, avec confiance, devant l'homme qui est monté au ciel. Le fait, comme ce matin, d'apporter nos louanges et nos intercessions, d'adorer ensemble celui qui est désormais à la droite de Dieu, qui est le véritable élan qui va nourrir continuellement notre mission. En quelque sorte, notre évangélisation découle de notre adoration. C'est ainsi que l'Église rassemblée est au service de l'Église dispersée. Par ces rassemblements, elle évite justement que l'Église se disperse. C'est ainsi que l'Église dispersée permet à l'Église rassemblée de ne pas se recroqueviller sur elle-même, de ne pas dresser des murailles vis-à-vis de l'extérieur, de devenir autre chose que cette Église missionnaire, voulue par celui qui est remonté auprès du Père, afin que nous soyons ses témoins partout sur la terre. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que c'est toi le roi des rois. Seigneur, je te prie, en premier pour moi-même, de m'aider à plus méditer cette place de l'ascension dans ma foi. Tu m'as repris cette semaine en réfléchissant à mon propre planning, à mon propre manière de gérer ces choses. Et je te prie, Seigneur, qu'à travers ce passage, tu aies pu parler aussi à chacun de mes frères et sœurs dans ce que tu veux leur transmettre. Seigneur, je te remercie pour cette vision du livre des Actes, cet élan missionnaire incroyable qui traverse toutes ces églises que nous rencontrons les unes après les autres et qui nous encourage à réfléchir à notre propre mission ici à Farnoutier. Seigneur, oui, nous sommes une belle église, comme ça nous a été dit ce matin dans l'accueil, mais nous sommes une église imparfaite et je te prie, Seigneur, de nous aider à voir là où nous avons besoin de progresser. Seigneur, aide-nous chacun, on a besoin ensemble de discerner cela, et montre-nous les lieux où nous pouvons faire cela ensemble. Seigneur, nous ne voulons pas être une église recroquevillée sur nous-mêmes, nous voulons être une église qui, en effet, est envoyée dans le monde. Et Seigneur, je te prie aussi que ces différentes initiatives que nous avons cette année, ces différentes réflexions, nous aident à grandir dans la réponse à cet appel que tu as dressé, que tu as donné à chacun de tes enfants. En ton nom, Seigneur. Amen.